France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le directeur général de l'APHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Vos questions 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Martin Hirsch.
Bonjour.
Hier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé que la progression de la cinquième vague en France était fulgurante. Question directe, à l'heure où nous parlons, face à cette fulgurance, comment va l'hôpital public? Est-ce qu'il tient?
Question directe, question longue. Comme vous avez vu, d'abord, je garde le masque, comme on le fait nous dans toutes nos réunions de travail et chaque fois qu'on est regroupé, puisque face à ce qu'on appelle la fulgurance, c'est-à-dire l'augmentation à nouveau forte du nombre de positifs dans la population, plus que jamais, pour que l'hôpital puisse tenir, pour que la population puisse tenir, il faut rappeler les fondamentaux. Pardon de prendre deux secondes là-dessus, la vaccination, le rappel, les gestes barrières qui sont utiles face à tous les virus qui circulent, parce que l'hôpital est aujourd'hui en prise d'une part avec le Covid, d'autre part peut-être avec la grippe dans quelques semaines, et certainement dès aujourd'hui avec les virus des enfants, les bronchiolites. L'ensemble de ces virus ont comme caractéristique, notamment pour le Covid et pour la bronchiolite, de pouvoir être facilités par le brassage des enfants à l'école, dans les crèches. Et donc, les gestes barrières peuvent sauver votre enfant, la transmission de la maladie, etc.
Donc, on arrête de toucher, et surtout la bise revient dans les cercles.
Une fois l'hiver revenu, il ne faut pas que la bise revienne avec. C'est des choses majeures, parce que c'est ça le système. Deuxième chose qu'on peut voir, donc la fulgurance existe en Europe. Moi j'étais il y a quelques jours avec nos collègues d'Autriche, d'Allemagne, de Pays-Bas, c'était il y a 10 jours, ils voyaient venir de front l'augmentation, leurs hôpitaux étaient vis-à-vis du Covid plus en difficulté que les nôtres et le sont aujourd'hui plus que les nôtres. On voit encore en France quelque chose sur lequel on peut s'accrocher, c'est-à-dire l'augmentation très forte dans la population générale n'a pas une traduction aussi forte dans les hospitalisations et dans les soins en réanimation.
Sur la première question de Nicolas, je vous la repose, comment tient l'hôpital à l'heure où nous nous parlons ce lundi matin ?
L'hôpital est dans une situation difficile, mais c'est pour ça que je prenais cette précaution, oui. Parce que aujourd'hui, ça n'est pas les patients Covid, aujourd'hui, ça sera peut-être malheureusement dans 15 jours ou dans 3 semaines, ou fin décembre, ou en janvier. Vous savez que les prévisions sont extrêmement difficiles à faire aujourd'hui. Hein. Il y avait, jusqu'à il y a quelques mois, on savait faire la traduction de la circulation du virus en hospitalisation et en soins graves. Aujourd'hui, ce n'est pas une règle de 3 aussi simple, heureusement. Elle est plutôt plus favorable.
Et donc,
mais donc l'hôpital est en grande difficulté, comme vous le savez, comme on en est plusieurs à le dire, parce que pour une première raison, qui est on a vécu 2 ans monstrueusement difficiles. Et on le paye. Vous savez, à un moment, vague après vague, on nous posait la question, est-ce que vous allez tenir dans la vague? En fait, dans l'urgence, on tient. Dans l'urgence, on trouve des solutions. Les gens se mobilisent. C'est absolument extraordinaire. C'est pas attendu, mais c'est extraordinaire. Mais comme un organisme, l'hôpital, c'est un organisme qui vit, qui souffre, qui supporte. Quand il a passé 2 ans dans une tension aussi extrême, la situation est difficile. Moi, je l'ai vu à la mi-août. À la mi-août, en faisant le tour des hôpitaux, on voyait que les gens payaient les efforts des 2 dernières années. Et donc, à cette rentrée, ça se traduit par des recrutements plus faibles que d'habitude, des gens qui ont des difficultés à travailler, des arrêts maladie plus nombreux, et donc une situation qui est archi difficile.
On va parler de la situation de l'hôpital, du nombre de lits fermés, etc. On voudrait vos précisions vraiment, parce qu'on entend beaucoup de choses ces derniers jours sur un hôpital qui serait vraiment au bord de l'effondrement. Mais si on revient juste sur le Covid d'abord, parce
quelques questions. Déjà donc sur les lits Covid ouverts à l'heure où nous parlons, combien en soins critiques? Vous disiez que vous aviez du mal à appréhender, et tant mieux, disiez-vous. Vous.
On sait exact.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire cet état des lieux-là?
Bien sûr, on sait exactement dire. Si je prends la région Île-de-France, qui est celle dans laquelle nos hôpitaux sont, en région Île-de-France, il y a un peu moins de 300 patients en soins critiques aujourd'hui, dont un tiers à l'assistance publique, les 2 autres tiers dans les autres hôpitaux publics, cliniques, etc., etc. Et des malades qui sont hospitalisés hors soins critiques, il y en a un peu moins de 600. Quand on regarde les choses, ce qui est
Ça, c'est uniquement pour la région Île-de-France. Hein.
Pour la région Île-de-France. Et vous avez vu, si vous regardez, sur votre appli Tous Anti-Covid, vous verrez qu'à peu près le taux de patients Covid dans les lits de réanimation est à peu près d'un quart. Donc il y a un quart de patients Covid, trois quarts de patients qui sont là parce qu'ils ont une intervention chirurgicale, parce qu'ils ont eu un accident de la route pour d'autres maladies. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde sur les patients hospitalisés, leur nombre augmente pas trop rapidement pour l'instant. Pour les soins critiques, c'est relativement stable depuis 15 jours, alors qu'on voit effectivement cette augmentation dans la population générale. Quand on regarde les prévisions, elles sont très difficiles, encore une fois, elles sont assez difficiles à faire. On pense que l'augmentation forte, si elle se produit, se produirait plutôt fin décembre ou janvier que maintenant.
C'est ce que vous craignez. Juste une question sur les 300 personnes qui sont en soins critiques aujourd'hui en Île-de-France. Combien il y en a qui ont reçu les deux doses de vaccin?
Alors, quand on regarde la proportion, c'est celle qui est affichée et qui est réelle, qu'on retrouve nous dans nos hôpitaux et dans nos statistiques, que il y a 9
fois plus de chances si on n'est pas vacciné,
voilà, exactement,
d'être en soins critiques.
Oui, pardon d'avoir du mal à le formuler, mais
donc en gros, vous avez une petite trentaine.
Le vaccin complet, non, c'est pas une petite trentaine, parce que comme la proportion de vaccinés est aujourd'hui très importante, vous avez donc une chance sur 10 d'aller en soins critiques quand vous êtes vacciné par rapport à quelqu'un de non vacciné, mais comme aujourd'hui vous avez trois quarts de vaccinés, il y a plus de vaccinés parmi les patients en soins critiques. Je ne sais pas si je suis clair.
Pas tout à fait. Mais
je reprends. Non, mais c'est absolument fondamental.
Non, mais partez de 600% de la population était vaccinée. Là, comme ça, on peut mieux comprendre.
Plus
je pense.
Le nombre de vaccinés dans la population est fort, plus le nombre de vaccinés en soins critiques est élevé. Si toute la population était vaccinée, comme la vaccination ne protège pas 100%, vous avez un petit nombre. Donc, chaque fois que la vaccination augmente, ça freine le nombre de patients en soins critiques, mais parmi les patients en soins critiques, la proportion va vers les vaccinés. Voilà, en tout cas, zéro doute là-dessus, zéro doute. La vaccination protège beaucoup du risque d'avoir une forme grave. C'est indubitable.
La Haute Autorité de Santé, restons sur la vaccination, a recommandé d'ouvrir aux plus de 40 ans l'injection de la troisième dose pour l'épidémiologiste Vittoria Colizza. Il ne faut plus prioriser telle ou telle catégorie de la population comme c'est le cas aujourd'hui, mais ouvrir à tous tout de suite l'accès à la troisième dose. Qu'en pensez-vous?
C'est ce qui est en train d'être discuté. Ce que j'en pense, c'est que la priorisation était justifiée à un moment où on gérait l'accès aux vaccins et les quantités finies de vaccins. Aujourd'hui, on a des quantités de vaccins suffisantes, en tout cas dans nos pays, en tout cas dans notre pays. Et dans ce cas-là, on peut effectivement pouvoir ouvrir. On peut pouvoir ouvrir. Alors ensuite, l'intérêt éventuellement de prioriser, c'est pas de priver les uns les autres, c'est de dire ceux qui doivent y aller le plus vite sont effectivement ceux qui sont plutôt les plus âgés parce qu'ils ont un peu plus de risques. Mais effectivement, ça n'est pas au détriment. Moi, je vois d'ailleurs sur le terrain les gens qui vont chez leur pharmacien. Les pharmaciens disent « j'ai plein de doses ». Effectivement, je vais un peu assouplir les choses. Aujourd'hui, il y a, je pense que tout le monde a compris que l'intérêt du rappel est majeur. Il n'a jamais été caché. D'ailleurs, c'est pas un changement de doctrine. Quand au début, on disait on n'a pas suffisamment de recul pour savoir s'il faudra un rappel. Le rappel n'est pas un échec. Et au contraire, probablement, le rappel est une formidable protection.
Martin Hirsch, après Israël et les États-Unis qui l'ont autorisé pour les 5-12 ans, où en êtes-vous de votre réflexion sur la délicate question de la vaccination des enfants?
Écoutez, moi je ne suis pas impliqué dans les comités qui décident de cela. Vous savez qu'en France, il y a 6 mois, on expliquait qu'on était tous anti-vaccin. Finalement, on ne l'est pas tant que ça, et tant mieux. Sur la vaccination des enfants, il y a toujours une très forte sensibilité. J'imagine qu'on arrivera, puisque dans quelques semaines, il y aura une AMM pour un vaccin,
une autorisation de mise sur
le marché pour un vaccin avec un dosage un peu adapté aux enfants, j'imagine qu'on ira vers le fait de permettre aux parents qui le souhaitent de pouvoir vacciner leurs enfants. Je ne pense pas qu'on aille vers une obligation, mais au moins de permettre de le faire.
Face à l'explosion des cas, l'Allemagne a décidé de revenir à la gratuité des tests de dépistage pour tous. Faut-il que la France y revienne également, vu la fulgurance dont vous parlez? Faut-il que les tests soient à nouveau gratuits?
Alors, l'Allemagne est dans une situation différente de la nôtre. Je redis que ce qui explique aujourd'hui la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que la France a mis en place, et elle a bien fait, c'est une excellente décision du 12 juillet, le pass sanitaire qui a poussé la vaccination. Donc, le test payant continue à pousser vers la vaccination, ça n'est pas un problème majeur, sachant qu'il y a des exceptions qui permettent d'avoir le test gratuit, notamment pour les vaccinés. Je pense que la question qui va se poser dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, qui est une question ouverte, et sur laquelle je ne réponds pas, mais il faut que les esprits se préparent, de savoir si on considère que le rappel, donc cette troisième injection, est tellement utile qu'à un moment donné, on fera le lien entre passe sanitaire et troisième injection. Encore une fois...
Vous le souhaitez ?
Oui, je souhaite que la dynamique qu'on a obtenue depuis juillet soit conservée dans les mois qui viennent pour pas qu'on replonge dans des hôpitaux...
Qui était dû à la contrainte. Oui, la dynamique est due à l'intervention du président de la République qui
exactement.
A... Et donc vous appelez à une nouvelle...
Et encore la semaine dernière, sur le rappel, moi je l'ai vu chez les personnels de la paix, les deux jours qui ont suivi l'intervention du président de la République, on a vu plus d'infirmiers et de médecins allant faire leur troisième dose. Donc effectivement, la contrainte est pas si mal quand c'est une contrainte d'intérêt général pour le bien collectif.
Alors rouvrons le chapitre des hôpitaux. Charles, bonjour et bienvenue à l'antenne d'Inter.
Bonjour, merci de prendre ma question. Enfin, c'est plutôt une intervention. Moi, je suis infirmier anesthésiste à la PHP, malgré le fait que je fasse partie des professions paramédicales les plus diplômées, donc qui devraient être les plus valorisées. Je me sens particulièrement humilié de valoriser. Notre profession est en grève dans toute la France depuis le 8 novembre et personne, ni le ministère, ni la PHP, ne cherche à nous répondre. Mais notre problème, celui des infirmiers anesthésistes, et plus globalement celui de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on n'a aucune considération, aucune perspective d'avenir et qu'on fait un travail à la chaîne, etc., avec très peu de reconnaissance. Moi, personnellement, je mène ce dernier combat, mais s'il n'aboutit pas, je quitterai ma blouse de soignant pour la troquer avec celle d'un autre métier. Et vous voyez, je vous dis ça avec quand même... une certaine émotion, j'ai la voix un peu tremblante, et je peux pas rester plus longtemps avec vous à l'antenne parce qu'aujourd'hui je suis infirmier et assigné, il faut que je retourne au bloc opératoire, mais voilà, je pensais que c'était important que vous entendiez cela.
Merci Charles pour cette intervention, ce témoignage et l'émotion qu'on a entendue dans votre voix. Je donne la parole à Martin Hirsch.
Alors, Charles qu'on a entendu est donc infirmier anesthésiste diplômé d'État, ce qu'on appelle les IAD. Qui ont la caractéristique, au-delà des trois premières années d'école d'infirmiers, de refaire une formation, et on fait beaucoup de formations pour ces infirmiers, de 2 ans. Aujourd'hui, cette formation n'est pas officiellement reconnue comme un vrai master. Ce qui pose un problème. D'autres personnes font 5 ans après le bac et ont un vrai master. Ces études-là sont pas plus simples que les autres.
Et donc, il faut qu'elles soient reconnues.
Et donc la reconnaissance comme un vrai master qui permet ensuite de pouvoir éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, faire un doctorat, d'aller enseigner à côté de leur métier, d'être reconnu. Donc il y a aujourd'hui une petite tension parce qu'il y a certains infirmiers. Pardon de rentrer dans la technique, mais ceux qui travaillent dans les hôpitaux sont nombreux à nous écouter et connaissent. Il y a certains infirmiers qui ont cette reconnaissance master quand ils vont vers un diplôme d'infirmier de pratique avancée et pas les IAD. Les infirmiers d'anesthésie ont un autre sujet qui est leur interaction avec les médecins anesthésistes. Et là, il y a une petite zone de frottement aujourd'hui avec une demande de ces infirmiers disant on a donc fait 5 ans d'études, on est hyper qualifiés, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'autonomie ou est-ce qu'on est... Donc les médecins anesthésistes ont plutôt tendance d'une part à soutenir la première partie du combat, à s'opposer à la deuxième partie du combat.
Oui.
Et donc, il va y avoir un petit moment tectonique autour de cela.
Sauf que là, ça donne... alors, je vous passe le nombre de questions sur l'appli d'infirmiers et d'infirmières. C'est un déferlement. Martin Hirsch, reconnaissez-vous qu'il y a aujourd'hui un problème aigu sur les infirmières et les infirmiers à la PHP? Et notamment, est-ce qu'il y a sur les blocs opératoires de plus en plus d'infirmiers et d'infirmières qui rendent leur blouse?
Alors, vous me demandez de reconnaître s'il y a un truc aigu, comme si j'arrivais aujourd'hui à France Inter en disant tiens, je vais reconnaître. Non seulement.
Non, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous disent ça. C'est pour ça qu'ils nous disent c'est ça le cœur du problème.
Excusez-moi. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, la reconnaissance de ce problème-là, elle date pas de ce matin ou de savoir qu'il y a beaucoup de gens sur l'appli. Elle date d'il y a plusieurs années. Moi, pardon de dater les choses, mais 2017, je dis un moment, ça ne va plus tenir avec le niveau de salaire actuel des infirmiers. C'était pas hier matin. 4 ans plus tard, les choses ont changé. Quand je dis les choses ont changé, je pense quoi ? N'ai aucun problème à connaître le malaise. La situation est aiguë et difficile, mais justement, elle n'est pas exactement la même que celle qu'il y avait il y a 1 an, 2 ans ou il y a 4 ans.
À cause du Ségur ?
À cause, grâce, on pourrait dire
grâce,
même.
Ouais.
Non, grâce au Ségur et grâce aux autres mesures qui ont été faites et grâce aux efforts des infirmières. Mais quand je regarde aujourd'hui le salaire moyen des infirmiers à l'AP par rapport à ce qu'il était il y a 2 ans, il est en moyenne de 300 euros de plus, qui était exactement la revendication qu'ils avaient. Cette revendication n'a pas été complètement satisfaite par le Ségur, qui a plutôt apporté 200 ou 210 euros en plus, mais par le fait qu'on majore les heures supplémentaires, il y a un certain nombre de choses qui font que, du point de vue de salaire, les choses, ce qui fait que l'IAD qu'on a entendu tout à l'heure, il ne demandait pas son salaire, il demandait une reconnaissance plutôt sur le mode d'exercice. Donc, je pense qu'il faut à la fois continuer sur les rémunérations, notamment, je pense, à ceux qui travaillent de nuit, qui sont les moins nombreux. Notre problème le plus aigu, il est là. Il n'est pas forcément dans les blocs opératoires, il est ceux qui travaillent de nuit.
Combien comptez-vous de postes non pourvus d'infirmières et d'infirmiers aujourd'hui ?
Environ 1 000 sur 18 000. Environ 1 000 sur 18 000.
Ça pèse pour les opérations ? Est-ce qu'il y a des opérations que vous êtes obligé d'annuler ? Est-ce qu'il y a des patients que vous ne pouvez pas prendre en charge à cause de ces 1 000 postes non pourvus ?
Je vais vous expliquer les choses. Je vais prendre 3 chiffres. C'est très intéressant, ce qui montre l'effort qui se passe. Grosso modo, on a, à cause de ce manque d'infirmières, et d'infirmiers d'ailleurs, comme on l'a entendu là, à peu près, aujourd'hui, nous, à l'assistance publique, 13% de nos lits fermés. C'est un peu mieux qu'en septembre, parce que ça s'améliore toujours en octobre et novembre par rapport à septembre. 13% des lits fermés. On ne prend pas 13% de patients en moins. Quand on regarde en hospitalisation, on prend 4 ou 5% de patients en moins. En revanche, en hôpital de jour, ce qui peut être je rentre le matin, je suis opéré, je sors le soir ou je vais faire mon bilan complet, etc., on prend 5% de patients en plus. Donc on arrive aujourd'hui, et merci aux équipes qui font ces efforts considérables, à soigner à peu près autant de patients avec un peu moins de personnel et avec un certain nombre de lits fermés. Ce qui explique aussi une partie des tensions. Tout le monde serre les fesses et serre les dents pour bosser le plus possible dans ces conditions difficiles parce qu'on a tous, l'obsession du patient. Ensuite, ce truc-là ne peut pas tenir des mois et des mois, bien évidemment.
Chez vous, à la PHP, Rémi Salomon, et là on est sur la crise de l'hôpital, Rémi Salomon, le président de la commission médicale de la PHP, déclare on est dans une situation où dans quelques mois, on peut avoir un effondrement de l'hôpital public. La situation est catastrophique en région parisienne et très très inquiétante dans d'autres régions. Que lui répondez-vous ?
D'abord, on a eu ce débat avec lui et ses autres collègues médecins, présidents de commission à la paix sur ce ton. Lui dit ma responsabilité est de lanceur d'alerte. D'autres disent notre responsabilité est de pousser à la mobilisation la plus forte. Il faut certainement trouver un équilibre. Si rien n'est fait, si on change rien, etc., effectivement, peut-être qu'un jour, ça s'effondrera. Je pense d'abord que comme personne qui travaille à l'hôpital n'a envie que ça s'effondre, on doit plutôt conjurer cela que d'appeler et d'avoir
Vous dites attention aux déclinistes de l'hôpital,
Oui. Alors, attention à ça. Puis la deuxième chose que je dis, et qui effectivement fait pas plaisir à tout le monde, et vous allez peut-être avoir des auditeurs qui vont sursauter et qui vont m'injurier, mais ne négligeons pas la part de responsabilité que nous avons. Tout n'est pas... J'évoquais, les salaires se sont améliorés, dans certains cas pas suffisamment, je parlais du travail de nuit, il y a des efforts supérieurs à ceux qui étaient avant pour s'occuper de la qualité de vie au travail, de financer des projets pour rendre la vie au travail plus moins pénible. Il y a des tas de choses. Il y a un certain nombre de facteurs. Si l'hôpital va mal, c'est peut-être aussi parce que les acteurs hospitaliers eux-mêmes, dans leur mode de travail du XXe siècle, ne se sont pas encore complètement, n'ont pas encore tiré complètement les conclusions du fait que les aspirations des jeunes sont pas les mêmes. Donc ceux qui ont les manettes sont la génération des 50, 60 ans bien mûrs. Voilà. Mmh. Les infirmières qui ont 24, 28 ans et qui aspirent à autre chose. Les jeunes médecins qui ne veulent pas absolument la même carrière. Et donc, on n'a pas su s'adapter dans nos organisations.
On est dans une phase de transition, c'est ce que vous dites, quoi.
Parfois, de chef... Oui, non, je ne dis pas que ça. Je dis que cette transition, elle ne dépend pas que des pancartes qu'on brandit ou des catastrophes dont on menace, mais également de la manière dont on dit « moi, j'en ai tiré les conséquences pour travailler autrement ». Moi, pour ma part, j'en ai tiré les conséquences. J'ai la numéro 2 de l'AP est aujourd'hui un médecin, pas un énarque, pas etc. Est un médecin. Quoi. Voilà, il y a toute une série
Martin
de choses dont on tire les conséquences.
Juste une dernière question de chiffres, pardon, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur les fameux lits fermés, faute d'infirmières. Mmh. Donc, Jean-François Del Frécy parlait de 20% de lits fermés au niveau de la France. Vous vous dites ce matin, il y en a 13% à la PHP. C'est bien ce que
c'est le chiffre que j'ai retenu.
Et Olivier Véran dit non, il y en a que 5% au niveau de la France.
Alors, donc 13%, je m'exprimais pour la paix. En fait, quand on regarde la situation, la situation à Paris, dans certaines grandes villes, est assez différente de la situation nationale. Grosso modo, à Paris, on manque d'infirmières et pas de médecins. Alors, vous trouverez trois cas particuliers de médecins. Oui. C'est un peu plus difficile pour les psychiatres et pour les pédiatres. Et souvent, dans les hôpitaux, y compris de grandes banlieues ou dans les hôpitaux de province, leur problème n'est pas des infirmiers, mais le problème est un manque de médecins. Alors, ça se traduit pas forcément par des fermetures de lits, mais par des difficultés d'accès aux soins. Donc, c'est pour ça, juste là-dessus, et je vois que vous recevez les candidats les uns après les autres, ce qui est logique, la question de permettre de ne pas avoir des traitements uniformes de la situation, nous, on a plutôt besoin d'avoir plus de possibilités de liberté pour s'occuper des infirmières, les loger, des choses comme ça. Ailleurs, c'est plutôt de pouvoir inciter les médecins à venir. Les mesures uniformes dans une situation aussi hétérogène, et c'est ça la caractéristique de la France par rapport aux autres pays. Quand je regarde dans les autres pays, on a donné plus de liberté, plus de capacité d'adaptation en fonction des territoires.
Martin Hirsch, Olivier Véran a commandé un rapport sur la réorganisation du système de santé français, un rapport qui n'exclurait pas l'idée d'une grande sécu, c'est-à-dire que l'ensemble de la protection santé des Français soit confié quasi exclusivement à l'État au détriment des mutuelles. Ceux qui sont contre sont parfois vigoureusement contre et disent que c'est presque une nationalisation du système de santé. Le sujet est très technique mais passionnant. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée?
Alors, je vais faire d'abord ma déclaration d'intérêt. J'ai fait un article là-dessus avant les élections présidentielles précédentes, en disant que le temps était venu. Je vais réactualiser les choses aujourd'hui. L'idée, et on va prendre, vous savez qu'il y a l'hôpital et la médecine de ville. Prenons déjà l'hôpital. L'hôpital, est-ce que vous trouvez, vous, on est en pleine épidémie de bronchiolite. Est-ce que vous pensez qu'un enfant en bronchiolite, on prend, vous voyez ce que ça veut dire, on l'intube, on le met en réa, le petit gamin. Est-ce que vous croyez que c'est pris en charge à 100% par la sécu? Ben non. Et est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Un patient qui a le Covid et qui va en réanimation, j'ai insisté là-dessus pendant les premières et deuxièmes vagues, on le prend pas en charge. Ça a deux conséquences. Un, c'est quand même totalement absurde d'envoyer des factures. Alors, pour vérifier qu'ils ont une mutuelle, et s'ils n'ont pas de mutuelle, de leur faire payer. Et puis, on ne va pas leur faire payer à la fin.
Vous voulez que tous, que la sécurité sociale gère tout et qu'ils...
Au moins pour l'hôpital.
Et que donc les mutuelles soient marginalisées.
Ben, soit.
Ceux qui s'y opposent, par exemple, Xavier Bertrand, vous en avez parlé avec Xavier Bertrand dans le couloir. Il vous dit, je suis contre, c'est quasiment une nationalisation.
Mais je vais être très pragmatique. Deux choses possibles. Une première chose, c'est la sécu qui s'occupe d'aller récupérer l'argent chez les mutuelles, mais pas moi, pas l'hôpital, pas les 1000 personnes qui travaillent à l'hôpital sur ces factures. C'est absurde. Tout le monde, vous regardez dans tous les dossiers de presse, il est marqué « débureaucratisons l'hôpital ». Moi, je dis « chiche ». Débureaucratiser, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus à traiter des millions de factures. On doit traiter des millions de patients, pas des millions de factures. On n'est pas un facturier.
Ouais, c'est ce que vous lui avez répondu. Ouais. Je préfère
et égalité
ne pas
d'accès
avoir
1000
personnes égalité qui font des papiers.
Quelle est la justification nationalisation, mais on n'est pas en 1980. Quelle est la justification qu'un patient pris en charge un petit enfant de Seine-Saint-Denis, pris en charge pour une bronchiolite à l'hôpital, et à payer un reste à charge ou à avoir une mutuelle pour la bronchiolite. Ça n'a pas de sens. Et les autres pays, est-ce que les autres pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., sont des pays nationalisés du socialisme soviétique des années 40 ? Non, 50, non.
Merci Martin Hirsch, merci. Directeur général de la PHP Assistance Publique, Hôpitaux de Paris, 8h47.